Le MAC de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h en direct sur Radio IMO.
Oui, je le disais, ça me fait plaisir de découvrir et de faire découvrir un nouvel invité dans l'immobilier. Bien sûr, vous êtes bien connu depuis longtemps, Philippe Rosio. On va parler d'INEA, parce que c'est une société que vous avez créée vous-même. D'où ça vient ?
Allez-y, Philippe.
Oui, ben ça vient du fait que avec Arline Gojal, il y a maintenant 15 ans, on sort un peu d'un univers qui était le nôtre précédemment, qui était d'être banquier. On avait travaillé pour la Deutsche Bank, on avait travaillé pour GE Capital Real Estate, et on s'est dit qu'on avait envie de créer notre propre société.
Est-ce que vous étiez combien au départ et aujourd'hui, vous êtes combien? Qu'on ait un petit peu une idée des masses, des ordres de grandeur.
Les masses, vous allez les réaliser très rapidement. On est trois au départ, puisqu'il y a Alain Julliard, et on est 10 aujourd'hui.
Et c'est une formidable réussite, hein. Je vois objectif d'un patrimoine d'1 milliard d'euros. Et puis, vous n'arrêtez pas. Vous avez encore annoncé, pas plus tard qu'hier, l'acquisition à Toulouse de magnifiques fonciers. Alors, c'est acquis auprès de Midi Foncier, 5334 mètres carrés de bureaux. Vous n'arrêtez pas?
Oui, bah vous avez raison. Non, mais il ne faut pas qu'on arrête. Oui, on a commencé à partir de zéro. Et c'est vrai qu'en date d'aujourd'hui, arriver à ce résultat, c'est une satisfaction. Le point, c'est que quand vous êtes en train d'arriver à un certain résultat, on vous demande tout de suite qu'est-ce que vous allez faire après.
Vous voulez nous suggérer cette question? Attention, on va y réfléchir. Fabrice, justement, une question.
Alors, Philippe Rosio, bonjour et bienvenue sur le MAC de l'IMO. C'est une première pour vous. On vous en remercie. Un petit peu de contexte. Hein. C'est vrai qu'on a plongé directement dans les chiffres et dans le business, mais le MAC de l'IMO, c'est avant tout de vous découvrir. Hein. On a 45 minutes, un petit peu plus, pour découvrir la personnalité, l'homme derrière la fonction. Et je voulais revenir, moi, sur votre choix, puisque vous êtes aux commandes aussi de cette émission. Vous allez participer à la programmation musicale et juste avant 8h, on a écouté les Rolling Stones. C'était votre premier choix musical. Je crois que c'est un groupe mythique hein, aujourd'hui qui continue, les Papis du Rock, mais que vous avez eu la chance de voir, c'était il y a quelques années déjà.
Oui. J'ai trois filles, donc c'est assez marrant qui ont entre 17 et 22 ans. Et c'est vrai que cette génération-là est en train de découvrir la musique qui nous a bercé quand on était adolescent. Après, je pense que il y en a qui sont Beatles, il y en a d'autres qui sont Rolling Stones. Moi, je suis définitivement Rolling Stones.
Ah ben ouais, effectivement, il y avait cette opposition. Hein. C'était les bons garçons, les Beatles, et puis les énervés, la bande à Keith Richards et Mick Jagger.
Et dans votre esprit, si j'ai bien compris, être entrepreneur, hein, être son propre patron, créer des projets, c'est ce qui vous anime. Elle vient de là, la réussite et tout simplement la création d'INEA.
Je pense que c'est effectivement à un moment une envie. Elle nous est avec Arline en quelque sorte arrivée assez tardivement. Mais c'est ensuite envie de créer quelque chose, de faire éventuellement les choses différemment. Alors tout à l'heure vous parliez des effectifs. On a des effectifs extrêmement ramassés. Donc ça ressemble un peu plus à une équipe commando. Ça veut dire qu'on a externalisé beaucoup de choses qui ne nous paraissaient pas essentielles. Et il y a des prestataires qui nous suivent quasiment depuis le début, qu'on ne peut que remercier. Ça donne une dynamique, ça a aussi une actualité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous recrutez des gens jeunes, je trouve qu'ils se retrouvent davantage dans des structures à taille humaine.
Alors, ça représente aujourd'hui combien de sites? Vous êtes actif sur quel périmètre hein? Je vous le disais, vous êtes dans les grandes métropoles régionales. Ça m'intéresse de savoir la vision que vous avez et jusqu'où vous voulez vous déployer.
D'abord, le départ, c'est d'être à l'écoute. Quand vous créez quelque chose, vous avez un besoin de vous différencier parce que si vous créez quelque chose qui est décliné par des mastodontes, vous allez avoir quelques difficultés. Donc, on s'est mis à l'écoute et on a notamment écouté les promoteurs immobiliers. Et ces gens-là nous disaient, écoutez, au bout des lignes de TGV, il y a tout de même des métropoles qui sont en train de se développer, et on y fait des produits qui, de par leurs prestations techniques, ressemblent étrangement à ce que vous trouvez sur Paris et la région parisienne. On y a été. On n'avait pas grand-chose à l'époque, puisqu'on a commencé avec 5 millions d'euros de fonds propres. Et le premier immeuble qu'on a acheté, on l'a acheté au promoteur Lazare, et c'était à Metz. Et donc, c'est un souvenir où on a vraiment pas grand-chose. En tout cas, on n'a même pas de carte de visite. Et on a commencé comme ça, avec cette idée que, à l'autre bout, en fait, effectivement, de ces lignes de TGV qui se répandaient partout en France, il y avait des villes. On a découvert des villes, on a découvert des gens. On a découvert une dynamique qui est sans doute la plus forte d'un point de vue démographique, économique, voire même culturel. Et on n'a jamais changé d'opinion. Et donc, à partir de là, on a acheté des immeubles neufs, ce qui était un exercice pas tout à fait évident. Alors, dans l'immobilier, on appelle ça de la vente en l'état futur d'achèvement. Ça veut dire que vous achetez des immeubles qui ne sont pas entièrement commercialisés, loin de là. Et donc, ensuite, la démarche a été de comprendre que le neuf, et ça c'est éternel, attire le chaland, de voir que ce neuf-là, en quelque sorte, était aux normes environnementales, et en date d'aujourd'hui, que ce neuf-là, eh ben, on l'appelle vert.
Ah justement, vous avez dit ce mot magique, vert. Vous vous présentez comme le leader du green building. Encore une fois, on va détailler l'activité de la société, mais vous-même, c'était une conviction depuis longtemps. Vous êtes sensible à cette dimension écologique qui devient de plus en plus prégnante.
Oui, on l'est. On a commencé à acheter des immeubles de bureaux en bois en 2010-2011. Et on est le premier propriétaire d'immeubles de bureaux en bois en France. Ça représente à peu près 25% de notre patrimoine. Donc oui, c'est une conviction chevillée au corps. Je pense que en cheminant, c'est aussi une véritable satisfaction. Il y a eu en début d'année, vous savez, les grilles en quelque sorte qui sont appliquées immeuble par immeuble, en gros grilles administratives, de ce qu'on appelle le décret éco-énergie tertiaire. Et on s'est soumis, je pense qu'on est l'un des tout premiers, voire le premier, à avoir soumis l'intégralité de notre portefeuille à ces grilles-là. Et en gros, en date d'aujourd'hui, on a 90% de nos immeubles qui respectent déjà les seuils de consommation énergétique que le décret fixe pour 2030. On va le dire différemment, on a 10 ans d'avance. Donc ça veut dire que, oui, on a de quoi se revendiquer comme l'un des leaders du green building.
En tant que dirigeant, voilà, c'était une conviction que vous aviez chevillée au corps, ou vous sentez que pour se positionner, se différencier, c'est votre mode de différenciation en quelque sorte par rapport aux autres foncières?
Non, faut être honnête, je pense que c'est les deux. Hein. C'est les deux. Je pense qu'effectivement, à date d'aujourd'hui, ça permet de se dissocier, de se différencier. C'est pour des acteurs de notre taille, un peu un côté go no go, hein, voilà. Mais je pense que c'est aussi une vraie satisfaction d'arriver, et c'est notre cas, à entrevoir que globalement, c'est possible.
Vous employez même le terme de neutralité carbone dans votre domaine, dans votre cas. Qu'est-ce que ça signifie?
Alors c'est l'enjeu ultime, c'est le Graal. c'est d'arriver en fait à avoir des immeubles qui aient une consommation énergétique que vous avez pu réduire au travers des années. Et c'est en gros que ces immeubles-là ne consomment quasiment plus rien. Donc notre objectif en date d'aujourd'hui, c'est d'abaisser la consommation énergétique de nos immeubles autant possible. Je pense qu'il y a autres que le bois, il y a le béton décarboné qui est en train d'arriver, ce sera très intéressant. Et puis au-delà de ça, il faut arriver, pour faire simple, à zéro. Donc nous, on est rentré dans une mécanique qu'on pense être vertueuse et en plus profitable et intéressante. C'est-à-dire que, pour faire simple, quand vous achetez en fait des immeubles verts, vous arrivez à lever la dette qui est verte. Vous fléchez assez facilement cette dette-là pour dire « bah oui, je vais financer ces immeubles-là ». La dette verte actuelle la plus intéressante, c'est ce qu'on appelle une dette à impact. C'est-à-dire que si vous avez des objectifs que vous avez fixés pour la partie du patrimoine que vous êtes en train de refinancer et que vous atteignez ces objectifs, les banques qui vous ont prêté de l'argent jouent le jeu et vous offrent la possibilité d'avoir en fait une réduction de la marge qui était votre marge de départ. Et on a fait le choix qu'une partie de cette réduction de la marge, on puisse l'investir dans des projets de reforestation. Et si vous faites ça, vous êtes en train en fait d'abaisser l'empreinte carbone de la boîte. Et donc vous convergez vers la neutralité carbone.
Vous parlez de dette et vous êtes en face d'un des journaux journalistes financiers les plus émérites, Fabrice. Hein, c'est vrai, une société qui dit comme ça qu'elle vise la déforestation tout en visant une croissance.
Alors, pas la déforestation, on exagère, hein, plutôt la compensation carbone.
La compensation carbone. Dans le foncier, tout en visant une croissance importante, on va en parler dans un instant de la performance. Vous pensez que c'est possible? Vous avez déjà vu ça dans le secteur?
Bah, c'est vrai que dès qu'on entend green building, etc., on peut se poser la question parce qu'il y a aussi pas mal, malheureusement, de greenwashing. Vous savez, Philippe Rosio, tout le monde saute en ce moment sur les bâtiments économiques en carbone. On sait quand même que le bâtiment, c'est 40% des gaz à effet de serre, non seulement dans la construction, mais aussi dans l'exploitation. Alors, vous avez parlé effectivement de l'exploitation. Vous êtes conscient du bâtiment et du bâti, puisque vous parlez du bois, peut-être du béton végétal, on ne sait pas trop ce que c'est, mais ouais, ça va arriver. Et ce qui est intéressant, c'est que vous regardez aussi, vous faites attention, je crois que vous monitorez également la consommation en énergie et en eau grâce à un système de capteurs sur vos bâtiments. Donc vous allez un petit peu plus loin même que ce qui est demandé par vos exploitants.
Ben, on va un petit peu plus loin, on est très pragmatique et c'est vrai qu'on a, comme tout le monde, vu la multiplication des labels, etc. Quand vous vous mesurez aux normes du décret tertiaire, vous êtes dans une réalité qui est, on va le dire, brute de béton. Hein. Bon, et après, oui, assez tôt, dès 2012, nous est apparu le fait qu'on avait besoin d'arriver à connaître la consommation, on va dire en termes de fluide, c'est-à-dire en électricité, en eau de nos bâtiments. Et donc, on a des bâtiments qui sont tous équipés de capteurs. Le gros avantage, c'est que vous avez un retour de l'information qui est immédiat. C'est-à-dire qu'on a pu suivre, en quelque sorte, la consommation de nos bâtiments et donc quasiment l'occupation de nos bâtiments durant la crise sanitaire. Je m'explique, vous pouvez avoir un individu qui va arriver dans un immeuble de bureau, il est un peu énervé, il va tout allumer. Mais pas l'eau. L'eau vous permet de connaître, en quelque sorte, en gros, de manière assez fine, le taux d'occupation de votre immeuble. Et donc, c'était intéressant d'arriver à suivre ça durant la période qui était assez troublée.
Alors justement, cette période troublée, comment vous l'avez vécue, comment vous l'avez traversée, puisqu'il y a eu une grande inquiétude, hein, justement, sur l'ensemble des foncières. On précise aussi que vous êtes un groupe coté. Bon, ça se voit un petit peu en courbe de vent, il y a un petit creux, puis c'est remonté ensuite. Pratiquement, comment s'est passé, là, quand le président Macron annonce qu'on va fermer pour...
Ben, pratiquement, si vous voulez, vous avez forcément une espèce d'introspection. Pratiquement, vous vous dites assez humble par rapport à un événement majeur que vous n'arrivez pas forcément à dominer. Nous, très vite, on s'est dit que l'une des clés, c'était en fait, et à nouveau, voilà, le côté pragmatique, de suivre le taux d'encaissement de nos loyers. Et d'ailleurs, ça se voyait à l'étranger. Les groupes anglo-saxons, notamment en Angleterre ou encore scandinaves, revenaient systématiquement par rapport à ça. On a encaissé nos loyers à hauteur de 99% durant toute cette période-là. Donc ensuite, on s'est posé la question pourquoi. Et la réponse qu'on a en date d'aujourd'hui, c'est que en fait, on présente des immeubles neufs qui sont pour nous à taille humaine. Je m'explique, c'est quand vous avez un immeuble qui fait 2, 3, 4, 5, 6 étages, ça ressemble pas à une tour. C'est-à-dire que l'accessibilité, si l'ascenseur marche plus, c'est l'escalier. Et tout le monde prend de l'escalier. Après, vous avez ces bâtiments qui sont les nôtres, qui sont des espèces de parallépipèdes, hein, pour simplifier les choses. Donc plusieurs étages, donc chaque étage est divisible. Et vous avez en fait des surfaces qui sont en quelque sorte flexibles, réversibles. Donc en fait, vous avez des bâtiments qui sont à taille humaine et qui sont pour nous adaptés.
Modulables.
Oui, exactement. Et qui sont adaptés à ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que si vous voulez redessiner des plateaux en disant, ben maintenant, et c'est ce qui se fait globalement, on va privilégier un espace de bureau partagé qui n'a plus rien à voir avec un énorme open space. Et puis autour de ça, on va aménager des surfaces à la fois de convivialité et puis des surfaces de communication à des tailles diverses en fonction de ce que vous voulez faire, communiquer par rapport à l'extérieur, être juste en interne, etc. Ça se fait. Et donc nos bâtiments s'adaptent à ces nouveaux besoins. Et c'est, je pense, la réponse principale.
Et du coup, il y a eu des réaménagements, parce que vous dites 99% d'encaissement, ça veut dire que les locataires ne sont pas partis, ils ont gardé leur beau, bien évidemment. Est-ce qu'il y a eu des reconfigurations? Est-ce qu'il y a une nouvelle manière de penser son bureau post-crise sanitaire?
Alors, très certainement, je pense que c'est en cours. Il y a un point qui est un point fort sur les bureaux en région, c'est que globalement, le niveau des loyers est entre 3 et 4 fois inférieur à ce que vous avez sur Paris et la région parisienne. Donc, si vous voulez faire des économies, c'est plutôt de quitter quelque chose qui vous coûte entre 600 et 800 euros du mètre carré que de vous poser la question comment réduire une surface quand vous payez entre 150 et 200 euros du mètre carré.
Bien sûr.
Voilà.
Alors, nous sommes allés à la rencontre de votre écosystème et nous avons interrogé quelqu'un qui travaille avec vous, Karine Dachary, parce que on le dit, à la lumière de cette interview, on essaye de mieux connaître votre société et vous-même. Or, Karine Dachary travaille régulièrement avec vous, donc on va écouter son témoignage, si vous voulez bien.
Bonjour Karine Dachary, vous êtes la directrice générale adjointe de Foncière INEA et vous travaillez donc avec Philippe Rogiot. Ça fait longtemps ?
Ça fait 15 ans, oui, ça fait 15 ans. J'étais la première collaboratrice de Philippe Rogiot dans l'aventure INEA. Il est allé me chercher à la sortie de l'école et donc ça fait maintenant 15 ans que je travaille avec lui.
Alors vous étiez combien au début ? Parce que c'est une aventure entrepreneuriale.
On était quatre, les trois fondateurs, Philippe Rogiot, Arling Gojal-Kempler et Alain Julliard qui est aujourd'hui décédé. Donc ils ont commencé mi-2005, fin 2006 et moi je les ai rejoints en juin 2007, donc à la sortie de l'école.
Il y avait combien de salariés à ce moment-là ?
Ben, j'étais la seule, la première.
Vous êtes la première salariée. Alors comment est-il ? On cherche à le connaître comme directeur, comme manager. Quels mots vous viennent à l'esprit ?
Alors Philippe, je dirais que c'est un homme de conviction. Un homme de conviction, mais qui est toujours prêt à les remettre en question, toujours ouvert à l'échange, ce qui est assez plaisant. C'est quelqu'un qui est exigeant, mais juste, et je dirais quelqu'un de calme, avec vraiment un flegme, donc ce qui est assez plaisant et ce qui facilite le travail au quotidien.
C'est pas facile hein, d'être dirigeant, il faut anticiper, planifier, fédérer. Voilà, sur tous ces terrains, c'est un manager avec qui vous avez plaisir à travailler, semble-t-il.
Oui, mais c'est vraiment un manager qui fait confiance à ses équipes, qui n'hésite pas à responsabiliser, qui laisse les coups des franges pour que chacun prenne son autonomie et ses responsabilités. Donc, oui. Donc, je pense qu'effectivement, il a un bon sens du management, en tout cas pour les personnes qui ont à peu près le même profil que lui.
On le disait, en tout cas Karine Dachary le disait, il est venu me chercher à la sortie de l'école. Alors comme vous faites la sortie des écoles, non, je plaisante bien sûr, mais ce qu'on comprend à écouter vos collaborateurs, c'est qu'il y a une fidélité. Hein. Vous vous inscrivez dans la durée, c'est un peu votre marque de fabrique, Philippe Rogiot.
Oui, non, c'est ça. D'abord, il faut reconnaître que Karine a eu à la fois le courage et l'envie de nous rejoindre. L'école en question, c'est HEC.
Donc... C'est pas la petite école.
Voilà. Mais c'est une école que vous connaissez. C'est bien.
Oui, voilà. J'ai aussi été là-bas.
Voilà, alumni, hein, Philippe Rogiot, voilà. D'HEC.
Mais c'était... c'était une envie. Alors après, on a un mode avec Arline Gojal, parce qu'elle fonctionne comme moi, avec un caractère très différent, c'est-à-dire beaucoup moins apaisé. Mais je pense que la complémentarité est clé. On fait confiance aux gens qui travaillent avec nous, on leur laisse une grande autonomie, on les responsabilise, et c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire je pense que en date d'aujourd'hui, la jeune génération elle en a assez des petits chefs, elle en a assez des multiplications de niveaux hiérarchiques, et elle cherche des managers qu'elle va respecter et avec lesquels elle est prête à courir l'aventure. Et c'est effectivement ce qu'on essaye de faire.
C'est pas l'économie de moyens à tout prix. Hein. Quand vous dites, moi j'externalise tout, on a le strict... C'est une idée que vous travaillez comme en famille, hein, avec des gens que vous connaissez parfaitement, c'est ça ?
Oui, mais Karine a raison. C'est-à-dire qu'on a une exigence qui est assez forte. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de responsabiliser des gens et que globalement l'effort repose sur un nombre assez limité d'individus, il faut que globalement ça soit assez dynamique. Les prestataires, je pense que c'est la crise qu'on a connue dans les années 90, où il y a eu des prestataires qui se sont formés grâce aux grands prédateurs, et j'étais assez bien placé à l'époque, anglo-saxons. et de ce point de vue-là, c'est intéressant parce que c'est des gens qui sont devenus très bons. Et l'intérêt, si vous voulez, pour une structure qui se développe, c'est que quand vous êtes en train de vous développer en vous appuyant en quelque sorte sur les poches profondes de prestataires, vous pouvez emmener une équipe sans qu'elle devienne pléthorique, parce que précisément, c'est ces prestataires-là qui vont vous donner les moyens.
Mmh. Une question, Philippe, justement, sur ce management de la nouvelle génération, puisque bah, vous, j'imagine, le début de votre carrière, notamment en banque, où c'est assez cadré, ça n'a rien à voir, justement, avec ce qu'on appelle maintenant la Gen Z, où on sent cette envie de liberté, et finalement, si le job ne plaît pas, pense que quand vous avez démarré, il fallait faire absolument 3 ans quelque part à un poste, on ne pouvait pas bouger. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus libre. Quelle est votre vision justement sur ce management de ces nouvelles équipes?
Eh ben, je vous laisse imaginer, moi j'ai démarré chez Arthur Andersen. Donc.
Un bon moule dès le départ.
Bah,
hein.
C'est pire que la banque. Mais oui, c'est-à-dire que je pense que les cartes se rebattent. On est surpris aujourd'hui de voir des jeunes qui se disent « bon ben, je rentre dans une boîte, elle va m'utiliser, mais moi je vais l'utiliser de la même manière, ou d'une manière qui est adaptée à ce que je suis ». Bon, c'est un rapport qui est froid. C'est un rapport qui est beaucoup plus froid que ce qu'on avait quand on a commencé, parce que quand j'ai commencé, on vous promet un nirvana absolu, moyennant une période de grande souffrance.
C'est un peu ça.
Le paradis bientôt, l'enfer bon, tout de suite.
Voilà, c'est ça. Donc vous êtes sacrément naïf pour fonctionner comme ça. Mais il y a une génération entière, voire des générations qui ont fonctionné comme ça. Celle-là est plus froide, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle peut pas être enthousiaste et se responsabiliser. Moi, je suis, enfin, je le vois au travers à nouveau de mes filles. C'est une génération qui est prête à courir des risques. Et c'est très nouveau. Et vous voyez le phénomène de start-up en date d'aujourd'hui. En plus, c'est pas parce que vous rencontrez l'échec que tout doit s'arrêter. Voilà, c'est très rafraîchissant. Mmh.
Vous parlez de prestataires. Est-ce que vous vous appuyez sur la capacité d'innovation, de créativité des start-up? Je vous vois très connecté, en phase avec les dernières tendances de la société. On est en train d'en parler, de ces nouvelles générations. Est-ce qu'une foncière comme vous, avec votre expertise sur différentes années, vous êtes en lien avec des start-up pour récupérer la quintessence de l'innovation dans le foncier?
Toutes les foncières, avec des moyens qui sont effectivement pas comparables, sont en date d'aujourd'hui à l'écoute. C'est normal, je trouve que c'est très bien, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous voulez, si on arrive à notre échelle à montrer qu'on peut être profitable et vert, c'est très, très, très bien pour nous, mais très enthousiasmant en fait pour la profession. Tout le monde est tourné vers ces startups, tout le monde essaye d'y faire un peu son marché. On est en train d'évoluer dans ce monde-là parce que, ben encore une fois, il y a ce qui va être vraiment utile, échanger quelque chose, et puis ce qui va relever plus du gadget avec lequel vous n'allez pas faire grand-chose. Oui, bien sûr, on est connecté. C'est une démarche, pas quotidienne, mais constante qu'on a pour essayer de voir comment le monde dans lequel on est en train d'évoluer.
Et on l'a dit, hein, la dimension verte est importante dans votre stratégie, dans vos convictions. Est-ce que vous avez le temps d'être également en lien avec les constructeurs des grands groupes tels que Bouygues font énormément d'associations d'innovation pour créer des buildings effectivement à zéro émission? Ça, vous avez le temps, c'est-à-dire il y a les start-up, il y a les grands groupes, toujours avec ce cap sur le vert?
Oui, c'est on achète en fait aux promoteurs. Donc, les idées qu'ils peuvent avoir, les innovations, ce qu'ils peuvent essayer, à l'évidence, quand on a acheté des immeubles de bureaux en bois, on les a achetés globalement à Nexity. Et donc, c'était intéressant de suivre la démarche. Il y a eu une gestation chez eux importante. Le bois était, de mémoire, plus en fait destiné à du logement, et c'est dans le bureau qu'on a fait des choses avec eux. Donc oui, bien sûr, il nous est arrivé sur des immeubles de proposer qu'on ait recours à du béton décarboné plutôt qu'à du béton normal, et ça s'est fait. Voilà, des gens comme Bouygues le font, et c'est donc très intéressant.
On poursuit cette interview, on va continuer à découvrir notre invité du jour, Philippe Rosio, le patron de la foncière Inea. Juste après, Philippe, votre deuxième choix musical, est-ce que vous pouvez nous le présenter? On part au Brésil.
Ben voilà, c'est, vous l'avez dit, on y est.
On écoute tout de suite.
Vendeu seu terno, seu relógio e sua alma. E até o santo ele vendeu com muita fé. Comprou fiado pra fazer sua mortalha. Tomou um gole de cachaça e deu no pé. Mariazinha ainda viu João no mato, matando um gato pra vestir seu tamborim. Naquela tarde, já bem tarde, comentava: lá vai um homem se acabar até o fim. João bebeu toda a cachaça da cidade, bateu com força em todo o bumbo que ele via.
gastou seu bolso, mas sambou desesperado. Comeu confete, serpentina e a fantasia. Levou um tombo bem no meio da avenida, desconfiado que outro gole não bebia. Dormiu no tombo e foi pisado pela escola. Morreu de samba, de cachaça e de folia. Tanto ele investiu na brincadeira, pra tudo, tudo se acabar na terça-feira.
On vient d'écouter Erasmo, Carlos Cachaça Mecánica, le choix de notre invité,
Philippe Rosio.
Vous mettez ça le matin pour vous réveiller ou...
J'ai un petit frère qui vit au Brésil, voilà.
Ah, qui vous a fait découvrir?
Non, je connaissais, mais c'est, ouais, mais c'est un pays qu'on aime beaucoup depuis longtemps.
Inéa pourrait se développer au Brésil.
Ce serait le rêve absolu.
Et effectivement, on avance dans notre compréhension de cette foncière INEA qui rime avec croissance. Hein. Je vois que, alors, ne serait-ce que sur les 9 premiers mois de l'année, vous aviez annoncé plus 13%, au premier trimestre encore plus 12,6%. J'imagine que vous avez des objectifs ambitieux, mais en fait, la croissance, elle est bien au rendez-vous alors?
Elle est là. Elle est là parce qu'en fait, on a constitué un patrimoine en prenant des risques. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en achetant des immeubles en VFA. On les a remplis. Et ces immeubles-là, pour nous, sont en train de prendre de la valeur. Donc, c'est intéressant d'avancer de cette manière-là, c'est-à-dire d'avoir un acquis qui se valorise. Et puis, bien sûr, dans le cas de figure qui est le nôtre, on est tenu de croître. Et effectivement, on a cru de manière importante. L'objectif, vous le mentionnez tout à l'heure, à fin 2021, c'est d'atteindre 1 milliard de portefeuille. On est parti de zéro.
Vous en êtes à combien précisément aujourd'hui par rapport au milliard?
Alors, on était au 30 juin, ce qui est public, hein, puisqu'on est coté, on était à 974 millions.
Oh, à une encablure du milliard. Vous allez fêter ça en grande pompe, mais alors sur quel site, vous qui êtes partout?
On verra.
Et puis, quand on regarde sur un an, l'action a bien pris. Hélas, on dit en bourse, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Vous êtes confiant? Comment vous analysez
si on est 30 secondes techniques, ce qui a été intéressant pour nous, c'est-à-dire qu'une taille de société comme la nôtre, le reproche immédiat, c'est de dire oui, en gros, vous avez relativement peu de liquidités. Moi, j'ai toujours été un peu dubitatif. Si vous voulez, quand vous êtes propriétaire d'un immeuble, vous ne pouvez pas revendiquer une liquidité du jour au lendemain. Bon, quand vous êtes avec une société qui est une foncière, qui a plusieurs immeubles, c'est aussi assez difficile. Ce qui était intéressant pour nous durant la crise, c'est que, indépendamment de cette faible liquidité, on a eu une très faible volatilité. Et ça, c'est une caractéristique qui est de plus en plus, à mon sens, regardée.
Justement, j'imagine que vous jonglez donc avec ces notions financières. Vous l'avez dit, vous venez de la banque. Eh bien, l'un de vos amis que nous avons interviewé est effectivement dans le monde de la finance. Il s'agit de Frédéric Gral, banquier conseil. Et lui aussi, on lui a demandé de nous parler de vous, parce que vos amis, vos proches, vos collaborateurs, ce sont ceux qui vous connaissent le mieux. On l'écoute.
Écoutez, on a une relation depuis 2014 maintenant entre LCL et la société. Et effectivement, on a d'excellents rapports et on a accompagné depuis cette période le développement de la société.
Alors, vous avez beaucoup de clients, vous êtes habitué. Philippe Proziot, il se distingue comment ? Il a beaucoup de projets, il est visionnaire. Racontez-nous comment vous le voyez en tant que partenaire ?
Ben écoutez, déjà, il a un positionnement précurseur, hein, puisque depuis 2005, avec un positionnement sur l'immobilier neuf en région, et donc avec une performance énergétique des bâtiments qui est au-dessus du stock, hein, du panel de bureaux existants. Et donc, à ce titre, on peut penser que la stratégie est visionnaire. Par ailleurs, je qualifierais la relation en toute transparence. Voilà, et ça, c'est très très agréable en tant que partenaire.
Et c'est vrai, on cherche à comprendre, à cerner un petit peu mieux sa personnalité. On cherche à comprendre comment il est. Voilà, ses projets, ses dossiers, c'est mené solidement. Il sait ce qu'il veut. Il a plein d'idées. Racontez-nous comme personne, vous qui voyez beaucoup de gens vous demander, vous solliciter.
Écoutez, oui, il y a forcément beaucoup d'idées qui viennent sur la table. On est dans la co-construction des solutions dans l'intérêt du développement de la société. Et donc, tout notre échange vise à justement que ce soit dans une relation gagnant-gagnant et dans la durée, voilà, sur le long terme.
Effectivement, un banquier qui est peut-être devenu un ami. Quand on connaît parfaitement la finance comme vous, on vient de là, pour choisir avec qui on travaille, vous devez être dur en affaires en même temps, hein, non ? Comment ça se passe ?
On fait confiance et on attend que effectivement notre partenaire ou nos partenaires banquiers nous fassent aussi confiance. Et LCL a été vraiment une banque qui nous a accompagnés et qui nous a fait évoluer. Donc, un exemple assez simple, mais enfin 30 secondes un tout petit peu technique, les financements des foncières qui débutent sont des financements hypothécaires. Donc, c'est des financements qui sont assez longs, qu'on doit rembourser dans le temps, on les appelle amortissables. Voilà. Et globalement, ils nous ont dit, mais à un moment, vous pouvez passer à d'autres financements. Et on est passé avec eux à d'autres financements. On a sorti une émission obligataire privée, ça s'appelle un EuroPP. Et ça a été à l'époque l'un des plus gros sortis par une boîte de notre dimension, de type ETI. Et on a été sur les financements verts dont je vous parlais tout à l'heure avec eux. On a échangé là-dessus parce qu'on commence à être effectivement assez bon. Et par rapport à ça, on a sorti, je pense, le premier financement de type corporate, donc bancaire, aligné, le mot a été longuement recherché, aligné sur la taxonomie européenne. Mais c'était très innovant. Mmh. Et quand on parle aujourd'hui de financement vert à impact, on est toujours un peu en train de travailler, enfin pas un peu, on est en train beaucoup de travailler avec eux.
C'est intéressant parce qu'à vous écouter, on comprend que vous avez été innovant sur le green, cet aspect-là écologique. On comprend que vous cherchez également l'innovation financière. Je ne sais pas si vous le cherchez absolument ou si ça vous vient naturellement. Il y a d'autres innovations comme ça qui vous caractérisent en ce moment ?
Non, ça suffit.
Il faut dire aussi que la banque, je pense, si elle vous suit, c'est qu'elle est intéressée aussi à investir dans le... Dans la finance durable, hein, comme on l'appelle aujourd'hui. Elle verdit aussi son bilan à travers vos investissements. Et puis, on sent bien, avec des montages comme ça, qu'elle n'aurait peut-être pas financé une start-up de la tech. Là, on est quand même sur de la pierre. C'est aussi rassurant pour un banquier.
Oui, ça
donc
l'est.
Ça coche pas mal de cases.
Oui, mais ça l'est très certainement. C'est-à-dire que vous êtes sur un secteur qui est assez traditionnel et qui est en train d'évoluer. Et son verdissement est effectivement suivi. Un point qui est absolument fondamental pour moi, c'est, et il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est Arline Gojal, qui a cofondé avec moi Inea, qui est vraiment la personne qui est sur le terrain au niveau de l'immobilier et qui sent en quelque sorte ces évolutions. Voilà, elle a été absolument clé. Encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, on est très différents. Après 15 ans, on continue à se vouvoyer.
Ça comme permet... un vieux couple, comme Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre.
Ouais, voilà. Mais ça permet de se dire assez clairement les choses. Et encore une fois, on est très complémentaires. Donc, toute cette aventure pour moi, avec elle, avec aussi Karine, ça a été très enrichissant d'un point de vue humain.
Comment vous êtes justement rencontrés ? Parce que c'est intéressant, ces histoires d'associations. Ça marche ou ça marche pas. Et là, vous êtes effectivement un vieux couple dans la durée. Mais le binôme fonctionne, a l'air de très bien fonctionner. Comment vous avez fait pour vous mettre d'accord, pour racontez-nous cette rencontre.
Alors la rencontre, elle ne date pas de la création d'Inea, elle est encore plus ancienne. On était ensemble chez GE, on était ensemble à la Deutsche Bank, et en fait on a cheminé ensemble sur des aventures qui étaient très différentes, on va dire un peu à géométrie variable. Et on s'est retrouvés ensemble sur un moment le besoin de se dire voilà, on va créer quelque chose, on va en être un actionnaire significatif. Bon, avec le temps ça se dilue, mais tout de même c'est important pour nous. Et puis on fait les choses telles qu'on les sent avec notre patte. Et ça, on s'est retrouvé assez facilement sur ce terrain-là.
Mmh. Mais ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que au moment où on se tape dans la main, parce que vous aviez quand même chacun des beaux parcours, des bons postes, on se lance dans cette idée. Alors vous aviez quand même balisé, j'imagine, un peu l'aventure, mais c'est pas évident pour la répartition du capital, pour les fonctions. Est-ce qu'il y a une présidente, un directeur ? Comment vous avez choisi tout ça ?
Alors on n'arrive jamais à baliser l'aventure. on y va ou on n'y va pas. Et donc, dans ce cas-là, on respecte l'autre et on respecte ses envies, ses peurs. Voilà. Et voilà, on s'est écouté et puis on a décidé d'y aller. Et puis quand on y a été, ce que soulignait tout à l'heure Karine, on était un peu seul au monde. Hein. On était dans un rez-de-jardin. Et puis voilà, vous y allez, vous trouvez cet immeuble dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis vous en avez acheté un, vous en achetez deux, vous en achetez trois, vous levez du capital. Vous formez une espèce de tandem que Karine a rejoint très rapidement. Et puis vous avez des moments de solitude qui sont des moments que vous vivez à plusieurs, mais qui sont des moments de solitude. C'est-à-dire qu'à un moment, vous êtes arc-bouté par rapport à un effort qui est crucial pour vous. Mmh. Et vous réalisez en même temps que si vous n'y arrivez pas, c'est un non-événement. Ça rend humble.
Mmh. Et la famille aussi doit vous suivre dans cette aventure quand justement on passe de la belle structure avec les titres, les fonctions, la voiture peut-être, et tout à coup on dit son épouse, à son entourage, je change, je monte ma boîte.
Comment alors ma femme est italienne et elle vient d'un monde qui est un monde industriel. Elle a vécu dans pas mal de pays. Non, il y avait aucun problème pour elle. Mmh. L'important, c'était que je fasse ce que je ressentais, et donc elle a adhéré. Mes filles, à l'époque, elles étaient beaucoup trop jeunes.
Alors, je reviens au contexte immobilier, parce que c'est quand même notre cœur de métier, notre intérêt. Et si on élargit, j'aimerais que vous nous parliez du contexte des foncières européennes. On est quand même dans cette période de réouverture des économies européennes. En bourse, certains disent « Oh, faut aller sur les foncières, elles ont une valeur défensive ». Quel regard plus largement vous portez sur les capacités, possibilités, atouts, faiblesses de ce secteur des fonciers au niveau européen ?
D'abord, je pense que la crise qu'on vient de vivre, c'est peut-être pas terminé, mais globalement, on va dire que le gros est derrière. Ça a été, je suis pas le seul vraiment à le dire, hein, ça a été un formidable accélérateur de mutation qui était déjà en cours. Le télétravail n'existe pas depuis la crise, il existait avant. Ça veut dire, si on oublie 30 secondes le télétravail, que ça remet en cause beaucoup de modèles de développement, de business models d'un certain nombre d'acteurs. Il n'y a qu'à prendre les foncières qui sont des foncières dans le commerce, c'est très compliqué. Vous voyez l'aventure Unibail, etc. C'est bien malin et celui qui sait en date d'aujourd'hui ce qu'il faut faire. Dans le bureau, les mutations étaient moins violentes. les médias ont tout fait d'appliquer en quelque sorte l'e-commerce pour les foncières de commerce et donc le télétravail pour les foncières de bureau. Je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça. En tout état de cause, ce qui est intéressant, c'est que ça rebat les cartes. Ça rebat les cartes au niveau national comme en fait au niveau européen. Et donc les gens sont en train d'essayer d'adapter en quelque sorte leur stratégie d'investissement à ce monde qui a changé.
Est-ce que justement en termes d'acquisition, hein, il y en a eu récemment, on revient au niveau régional, je disais acquisition récente à Toulouse, il y a eu quelque chose dans le sud de la France. Voilà. C'est une question d'opportunité, comment elles s'échelonnent ces différentes opérations. Là, il y en a d'autres à venir, c'est une par mois. Le rythme, comment vous le voyez ?
Globalement, on investit à peu près une centaine de millions, voire un peu plus par an. Donc on a des actifs qui ont des tailles qui s'échelonnent, on va dire, assez simplement entre 10 et 30 millions. Voilà, en gros, notre cours hein, dans lequel on évolue. Vous avez raison, par exemple, de mentionner Toulouse. Toulouse, on a acquis à Toulouse et on était à contre-courant. Ça veut dire que, en gros, tout le monde était en train de voir le secteur de l'aéronautique à Toulouse et de dire « ça va être terrible ». Et nous, on s'est dit « ben, y a peut-être des opportunités ». Et par rapport à ça, l'idée, c'était que, en fonction du positionnement que vous avez géographique sur Toulouse, les choses ne sont pas les mêmes. Quand vous êtes sur Blagnac, c'est très aéronautique. Quand vous êtes sur Balma, ça l'est beaucoup moins. On est sur ce marché des bureaux en région qui, alors c'est 30 secondes là-dessus et quelques chiffres parce que c'est tout de même assez intéressant, on va sans doute aller vers un nombre de mètres carrés loués cette année qui fera sur les bureaux en région 1,3 million de mètres carrés. Si vous comparez ça à ce qui se fait sur Paris et la région parisienne, on sera sans doute aux alentours de 1,5 million de mètres carrés. Il y a un phénomène de rééquilibrage en ce moment. Mmh. Si vous ajoutez à ça globalement que au niveau de l'investissement, les volumes d'investissement dans les régions ont cru de l'ordre de 20% hein, sur les 9 premiers mois de l'année et qu'ils ont décru de l'ordre de 30% sur Paris et la région parisienne. Tout ça est assez intéressant. On achète du neuf, il y a un déficit de l'offre neuve en date d'aujourd'hui en région. Donc on est très pragmatique, on est sur des marchés qu'on connaît bien depuis 15 ans. Quand vous construisez des immeubles neufs, vous êtes systématiquement sur du périurbain. Dans ces villes-là, vous n'êtes pas en centre-ville. Quand vous êtes sur du périurbain qui se densifie et que vous êtes avec des marchés immobiliers qui deviennent de plus en plus profonds, vous allez avoir un double phénomène. C'est-à-dire que votre immeuble nouveau que vous avez loué à un ensemble de locataires au départ, il peut avoir plusieurs vies locatives parce qu'il y a suffisamment de profondeur dans le marché. Et en plus, s'il est bien situé, c'est son foncier qui, au fil du temps, va se revaloriser.
Il y avait eu cette opération à Bordeaux aussi, donc voilà, à Mérignac plus précisément. Oui. Comment vous tenez au courant, vous sillonnez des kilomètres pour connaître, on le voit, vous écoutez, bien sûr il y a les paramètres financiers, mais les opportunités d'un quartier à l'autre, ça fait toute la différence. Vous avez des représentants, des partenaires qui vous remontent ces infos essentielles pour réussir une opération immobilière ?
On est fidèles et on va jusqu'au bout en règle générale des opérations sur lesquelles on se met. Et donc, on a effectivement des partenaires qui voient bien que globalement, s'ils répondent à notre genre de beauté, on va conclure. Et c'est clé. C'est clé parce que y a tout dans ce monde de l'immobilier. Voilà. Et c'est l'une des grandes qualités, à nouveau, d'Arline, de sentir en quelque sorte où est-ce qu'on peut aller et comment est-ce que ça peut évoluer.
On sent effectivement que c'est elle hein, qui fait peut-être, qui investit, qui fait les deals, pardon, qui regarde, qui monitore le terrain. Et puis peut-être vous, c'est comme ça que se répartissent les tâches, qui faites la partie plus technique.
Non, enfin, si vous voulez, à un moment, il y a des prises de risque qui sont partagées. C'est-à-dire qu'à un moment, il peut y avoir une idée d'aller sur un immeuble et puis on va dialoguer pour se dire, bon voilà, ce risque-là, comment le sent-on par rapport au reste de la société, comment le sent-on par rapport à notre stratégie, ouais. etc.
En vous écoutant, j'ai l'impression quand même que ça coche pas mal de bonnes cases, hein, c'est-à-dire le neuf, donc des bâtiments moins énergivores, en tout cas qui se rapprochent d'un bilan carbone aussi bon que possible, les métropoles ou les grandes métropoles d'équilibre qui sont en train de prendre leur revanche par rapport à Paris, et puis ces bureaux, on sait très bien quand même que si l'emploi revient ou est très dynamique dans ces métropoles, ça va être plutôt pas mal. Du coup, ça donne l'impression d'un profil assez linéaire, Philippe Rosio, finalement, que vous avez écoché les bonnes cases et appliqué le bon business model. Est-ce qu'il y a eu quand même des difficultés? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été plus compliquées dans votre parcours?
Bien sûr. La crise de 2008-2009, c'est une crise qui nous prend alors qu'on est en plein développement. On est en train d'acquérir des immeubles et ils doivent être en quelque sorte commercialisés. Et en fait, cette crise-là va entraîner un attentisme. Et cet attentisme-là fait que nos locataires vont être complètement bloqués, ou nos potentiels locataires. Et donc, on va avoir une vacance qui sera une vacance qui va être aux alentours de 15%. On est en 2013-2014. La plupart des foncières ont des financements beaucoup plus diversifiés que les nôtres. Ils vont bénéficier de la baisse des taux. Et nous, on a des financements qu'on a complètement, en quelque sorte, cristallisés, bloqués. Donc ça veut dire que c'est des financements à long terme qui ont été swappés. Donc on est protégé, mais on va absolument pas bénéficier de la baisse des taux. Donc pour la concurrence, il y aura moins de loyers, mais aussi moins de charges financières à payer. Pour nous, il va y avoir moins de loyers, toujours les mêmes charges financières. C'est pas évident.
Donc finalement, crise financière plus compliquée que la crise sanitaire qu'on vient de connaître.
Pour nous, ça a été le cas, oui, effectivement, c'est vrai.
La suite du programme, alors le milliard va être atteint, hein, après bon, on peut doubler, on peut tripler, on peut décupler. Votre objectif un petit peu plus sur le long terme, c'est quoi? Ça sera ensuite de la transmission, je ne sais pas si vos enfants sont intéressés par ce que fait leur père.
C'est de penser. D'abord, il faut qu'on les atteigne, donc c'est en cours, je vous rejoins, mais c'est, voilà, il faut les atteindre et puis... On l'annoncera en temps et en heure. Nous, on s'est inscrit globalement à notre échelle dans le fait d'accompagner le développement des territoires avec de l'immobilier durable. C'est ce qu'on fait. On a des partenaires qui y croient comme nous. Et je pense que c'est un défi qui est en quelque sorte très... très sain, très, très enrichissant. Vous voyez tout de même ces villes avec des maires qui sont très engagés. Je prends une ville comme Bordeaux, et c'est un cliché, mais tout de même, ça va vous donner une idée. L'agglomération le centre-ville bordelais, c'est 400 000, 500 000 habitants. L'agglo, ça doit être 800 000. Globalement, afflue chaque année entre 10 et 15 000 nouveaux habitants. Alors, je ne sais pas si vous représenter ce que c'est. Ça signifie, c'est juste monstrueux. C'est très enthousiasmant de voir en quelque sorte des villes sur lesquelles vous avez misé qui se développent de cette manière-là.
Et justement, il n'y a pas de blocage par rapport à cette artificialisation des sols qui devient compliquée dans certaines métropoles. Est-ce qu'on bénéficie d'un joker vert peut-être quand on a bâtiment en bois ou bâtiment éco-responsable?
Oui, c'est sûr. C'est sûr, et c'est un des positionnements qu'on a, comme ont les promoteurs auxquels on achète des biens. C'est sûr qu'ensuite, à chaque époque, vous allez rencontrer des difficultés qui seront autres. À nous de nous adapter, à nous d'y faire face. Voilà.
Et puis, nous avons échangé avec Philippe Young, parce que vous le disiez, vous travaillez régulièrement au quotidien avec les promoteurs. Donc, il fallait un représentant de secteur dans l'émission. Il est directeur général de Mathieu Barre, Philippe Young. Il vous connaît bien et donc, on lui a demandé de nous parler de vous. Philippe Young, vous êtes le directeur général de Mathieu Barre et vous fréquentez, vous travaillez depuis quelques temps avec Philippe Rosio. Dans quel contexte en fait?
Ah bien écoutez, ça fait une vingtaine d'années qu'on a eu nos premiers contacts, donc avant même la création de Foncière Inéa et en tant que promoteur. J'ai développé des projets que je lui ai vendus en quelque sorte. Voilà. Ce que j'apprécie chez Philippe Rosio, c'est que les choses sont toujours assez claires, assez simples, assez rapides, avec son équipe qui est de grande qualité. Il y a assez vite une relation de confiance qui peut s'instaurer et ils ont une, je pense, une capacité d'anticipation par rapport aux évolutions du marché, aux évolutions des demandes, qui leur permet d'être vraiment en pointe sur des approches un petit peu nouvelles. Je pense que ça fait probablement partie des premiers investisseurs à s'intéresser aux régions et puis à mettre beaucoup de développement durable dans leur projet. Et c'est très agréable de travailler avec des partenaires, on va dire, qui deviennent assez rapidement des amis, et on peut travailler en confiance, mais toujours avec beaucoup d'exigence quand même, parce que Philippe est quelqu'un de très précis et très exigeant.
Il vous écoute. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ?
J'ai envie de lui dire bravo pour tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Et puis on a évidemment envie de poursuivre de belles aventures avec lui, avec ses équipes.
Philippe Rozio, quand vous entendez, comment vous êtes perçu ? Ça suscite quelle réaction ?
Non, mais Philippe Young, c'est vraiment une relation que Caroline et moi-même avons depuis longtemps. C'est quelqu'un qui, comme nous, a eu plusieurs vies professionnelles. Je lui retournerai le compliment, quoi. On peut pas dire qu'il soit pas exigeant.
Et on n'a pas tellement abordé de cette tendance récente suite à la pandémie, ces Parisiens qui veulent se mettre au vert. La côte de la province pour les particuliers, comme pour les entreprises, vous le sentez et c'est bon pour le business?
Oui, on le sent. Je pense que derrière ça, il y a en fait un modèle urbain qui correspond plus à ce que recherchent les populations qui vivent. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous êtes sur des mégalopoles, ça devient difficile d'y vivre. Les temps de transport sont dingues, ça peut être pollué, vous pouvez avoir un accès difficile au logement, difficile à ce qu'on appelle aujourd'hui les mobilités diverses et variées, etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les métropoles régionales qui sont en devenir sont en train d'établir un modèle urbain. Alors certes, il y a du trafic, etc., mais qui est plus à l'écoute ou qui a la possibilité de plus, en quelque sorte, évoluer. C'est compliqué de repenser Paris ou le Grand Paris. Ça l'est moins sur certaines métropoles régionales. Et c'est ça.
Vous avez quelques exemples en tête, vous nous direz ? Ou est-ce que ça se passe bien, la transition ?
Oui, mais il y a qu'à voir, si vous voulez, vous prenez une ville comme Toulouse avec le développement du métro, vous arrivez à Bordeaux, le tram, c'est juste, il vous attend au pied de la gare, il vous faut 1h24 en TGV pour arriver à Rennes. Des villes comme Strasbourg sont en train aussi d'évoluer. Lyon est la grande gagnante des métropoles régionales, mais elle sert d'exemple en fait aux autres. Donc ça garde en quelque sorte, ces villes-là gardent et sont fières de leur passé, de leur ancrage culturel. Et elles évoluent vers de la modernité. On parle de Toulouse avec l'aéronautique, mais c'est ne pas avoir vu, en quelque sorte, l'ensemble des mutations économiques qu'une telle ville est en train de subir.
Et vous avez eu raison de citer Rennes, puisque c'est le lieu de la prochaine émission Les Clés de la Ville qu'a tourné Radio Immobilier. Sylvain Lévy-Valenzy était hier avec la maire de Rennes. Une très belle émission en perspective. Mmh. On parlait de cette attirance de la province. Fabrice, vous restez avec nous. Vous vous à Paris pour les émissions. Hein.
Pourquoi pas Rennes ? Alors après, c'est la ville qui a le plus progressé, je crois, dans le neuf. C'est maintenant plus cher que Bordeaux. Hein. C'est assez étonnant.
Les promoteurs rennais sont redoutables.
Vous parlez d'expérience. Et vous-même, Philippe, qui a un petit détour sur Radio Immo, on aime bien savoir où est-ce que l'équipe est située. Vous restez dans Paris, région parisienne ?
Oui. Non, on est avenue de l'Opéra. Donc mais pourquoi ? Parce que, en fait, quand vous partez du cœur de Paris, vous avez accès à toutes les lignes TGV. Et donc, c'est comme ça qu'on se déplace.
D'accord.
Alors après, ce qui est assez aussi étonnant, c'est qu'avec la crise sanitaire, maintenant, quand on fait des zooms, on s'économise certains déplacements qui étaient plutôt, de nature technique.
Est-ce que, alors, pour le coup, pour vous ressourcer, peut-être, pour vos loisirs, quelle est votre ville de prédiction, puisque vous avez voyagé dans toute la France ? Le sud, le nord, l'est.
Question difficile, réfléchir.
Non, ça va être pas, oui. La Corse.
La Corse, c'est magnifique. Voilà. Magnifique, la Corse, effectivement.
Alors, on est quand même dans un contexte présidentiel, hein, campagne, pré-campagne. Hein, on ne sait plus si ça a commencé, pas vrai, ou si ça va commencer. Et est-ce que, du point de vue voilà, de l'habitat, du logement, de l'immobilier, tout simplement, vous avez quelques attentes? Vous aimeriez soit que des choses évoluent, soit que sur le débat, sur la place publique, soit mis quelques sujets, parce qu'on a un contexte favorable pour travailler, mais il y a certaines lois, certains dispositifs qui peuvent changer la donne quand même.
D'abord, je pense que dans le logement, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits en ce moment, à la fois par les professionnels pour se faire entendre et puis par les pouvoirs publics. Dans la partie qui est la mienne, davantage les bureaux, je pense que c'est en gros que le secteur de l'immobilier dans son ensemble soit vraiment perçu et reconnu par les politiques comme un vrai secteur économique.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci, Philippe Rosio. Je rappelle que vous êtes le patron de la foncière INEA.
Merci, Philippe Rosio. Le mot prise de risque est revenu plusieurs fois. On sent que vous avez ce mental-là. Et c'était la première fois que vous veniez à Web Radio. Cette prise de risque, vous ne le regrettez pas, j'espère.
Elle était réelle ce matin.
Mais ça s'est bien passé. On espère vous retrouver. Merci de votre visite.
Je vous remercie.
Merci, Fabienne. On se quitte en musique et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain Mac de Limo.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h, à retrouver en podcast sur radio.immo et toutes les plateformes de streaming.